des vrais contrebandiers. Au Cornis, c'est follement excitant. Viens, on va voir.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Nous avons lu cette semaine le nouveau roman de la jeune écrivaine franco-américaine Jennifer Richard, Le diable parle toutes les langues, paru aux éditions Albin Michel. Elle s'est intéressée au destin de Basil Zaharoff, c'est le plus grand marchand d'armes du début du XXe siècle, ami et complice de tous les chefs d'État, ou presque. Et à travers les mémoires glaçantes de son personnage, Jennifer Richard nous livre un véritable traité de philosophie sur la liberté, mais surtout sur ce que l'on fait de cette liberté. 418 pages extrêmement bien écrites qui font écho à quelques figures qui règnent aujourd'hui, un siècle après Basil Zaharoff, sur notre monde contemporain, avec le même cynisme et sans forcément vendre des armes.
Podcast by Tendance Ouest.
Bonjour Jennifer Richard.
Bonjour Jean-Baptiste et merci de me recevoir sur Tendance Ouest.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors votre nouveau livre, c'est un roman. Cependant, son personnage principal, Basil Zaharoff, a bien existé. Il fut l'un des plus grands marchands d'armes du début du XXe siècle. Avant de rentrer dans votre ouvrage, comment vous le rencontrez, vous, ce personnage? Pourquoi vous vous y êtes intéressé, alors qu'il est plutôt sans scrupules, hein, on va le découvrir. Et pourquoi vous le choisissez?
Je l'ai choisi sur les recommandations, les conseils et les recherches de mon mari, après l'écriture de mon précédent roman qui s'intitulait « Il est à toi ce beau pays », qui m'a permis de creuser un peu la question politique, la question du discours politique à travers la colonisation. Et je voulais continuer dans cette voie, mais de manière très générale sur le discours politique. Et si j'avais continué vraiment dans un sujet comme la colonisation, je pense que mon discours se serait dilué. On m'aurait plutôt orienté vers une niche sur une dénonciation unique de la colonisation, alors que mon discours est plus large. Donc il me fallait un personnage autre, un personnage qui a œuvré dans une région qui nous parle plus en Europe. Et Basil Zaharoff tombait à point. Donc beaucoup d'articles ont été écrits sur Basil Zaharoff dans les années 30. Et puis, de nouveau, dans les années 2000, il y a eu quelques articles sur lui. Et donc voilà, c'est un peu un hasard, c'est des discussions.
Mais alors pourquoi vous le choisissez lui, Jennifer Richard? Pourquoi oui, c'est ça, pourquoi il y a cette rencontre entre l'écrivain que vous êtes et puis ce personnage sulfureux? En tout cas aujourd'hui, on emploierait sans doute ce terme.
Oui, alors il n'est pas, vous précisez, vous dites qu'il est marchand d'armes, il n'est pas seulement marchand d'armes, et c'est pour ça qu'il est très intéressant.
Oui, d'ailleurs, au départ, je vous avoue que si je suis tombé sur votre livre, c'est précisément parce qu'il était aussi dans la presse.
Exactement, voilà. Et c'était un mania de la presse. En fait, il avait tous les pouvoirs concentrés entre ses mains, le pouvoir absolu, et il avait une influence terrible auprès des gouvernements européens, ce qui lui permettait d'orienter les choses en sa faveur. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, parce que Zaharoff en lui-même n'est pas un problème pour l'humanité, puisque Zaharoff est mort en 1936, on pourrait se dire, quand on a des grandes figures du mal comme ça et qu'elles disparaissent, on devrait souffler. Et en fait, non, les choses sont toujours aussi dures pour la plupart de la population. Donc Zaharoff est un exemple du pouvoir, c'est quelqu'un qui concentre un pouvoir énorme de manière assez opaque et qui dirige la politique. Donc c'est pour ça qu'il m'a intéressé. Donc c'est pas tellement le personnage.
Oui, il est au-dessus des États, hein, presque.
Il est au-dessus et en dessous à la fois. Voilà, il est vraiment à toutes les strates. Il oriente la politique française, la politique européenne de manière générale, puisque c'est le genre de personnage qui a poussé les États vers le conflit, la boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. Et c'est le genre de personne qui a un pouvoir même à un niveau microscopique, parce que en Normandie, j'imagine que vous connaissez beaucoup mieux qu'au niveau national Jules Durand, qui est, je crois, un héros normand, et Jules Durand qui a été condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis, parce que c'était un syndicaliste, parce qu'il avait organisé une grève illimitée au port du Havre. Et ça heurte les intérêts de gens comme Basil Zaharoff, qui ont des intérêts dans les sociétés maritimes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu dans mon roman montrer à quel point il a une influence énorme et aussi une influence très très locale sur la vie des gens qui veulent se confronter au pouvoir.
Alors dans votre roman, ce Basil Zaharoff, on le découvre, nous lecteurs, au crépuscule de sa vie. Il confie un manuscrit à sa fille, il confie la lecture de ses mémoires à sa fille. Je vais lire un extrait, page 74, parce que par ce livre, vous avez toute une réflexion sur un tas de notions, comme évidemment l'argent, par exemple. Vous écrivez ceci, bien entendu, on ne gagne pas non plus d'argent en travaillant, ni en économisant. L'argent amassé ne sert à rien. Francis Bacon le compare au fumier. Laissé en tas, il pue. La seule chose qui vaille, c'est de faire des affaires, investir, acheter, vendre, racheter, doubler la mise, les affaires, encore les affaires et rien que les affaires, convaincre son interlocuteur que l'on est le meilleur fournisseur, mieux, le seul, susciter sa confiance, ne jamais accorder la sienne, observer sans se découvrir, vendre et acheter peu, incarner le marché et enfin le dominer. Mais tout le monde n'a pas le goût du risque. Et en fait, on découvre par votre roman toute cette stratégie de Basil Zaharoff, dont il est assez fier dans ses mémoires.
Oui, tout à fait. Mais c'est une stratégie, je pense, c'est la stratégie du commerce de manière générale. Basil Zaharoff incarne ça aussi. Il incarne le commerce, les affaires. Puisque ouais, je pense que vous l'avez observé, beaucoup de vos auditeurs le savent, si vous économisez toute votre vie honnêtement, au mieux, vous allez pouvoir vous acheter une maison. Et c'est déjà vraiment une belle réussite, mais c'est pas comme ça qu'on devient riche. Les grandes fortunes aujourd'hui dans le monde ne se sont pas contentées d'économiser sur leur salaire. Et pour devenir un millionnaire, puis un milliardaire, comme il y en a tant, il faut guetter les crises. Il faut vraiment être toujours prêt au moment de la crise à acheter, à vendre au bon moment. C'est une histoire de timing. Et je pense que malheureusement, les années qui nous guettent vont nous le montrer cruellement.
M'a surpris dans votre livre, Jennifer Richard, c'est que il me semble que vous êtes extrêmement précise et il me semble très juste sur cette analyse d'un espèce de capitalisme sans foi ni loi, sinon celle de l'argent, évidemment. Où est-ce que vous avez été chercher toute cette matière? C'est de l'observation?
C'est de l'observation, c'est une colère qui monte, comme à mon avis chez beaucoup de personnes, de plus en plus. Il y a vraiment une vague, je pense, il y a une vague de colère, mais qui est là depuis des siècles. C'est pas nouveau, ces mouvements de masse contre l'injustice et contre un pouvoir vraiment implacable. Donc moi, j'observe cette colère. Je peux pas dire que dans ma vie personnelle, je souffre énormément de cette de l'injustice, de la finance, mais j'ai le temps d'observer, j'ai le temps de lire énormément, de lire des ouvrages d'économie, de philosophie, et je retrace ça dans un livre en essayant d'ouvrir les yeux à certaines personnes, de toujours montrer que les décisions politiques sont mûrement réfléchies. Il y a très rarement d'erreurs, il y a très rarement d'incompétence au sein des gouvernements. Généralement, il y a une ligne qu'on ne voit pas venir, et avec Zaharoff, j'ai juste voulu montrer qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font, même si au niveau de la population, ça se voit pas, et on est juste obligé de subir. Donc oui, voilà, c'est une espèce de petite flamme de colère que j'essaie d'entretenir et de partager avec ce livre.
Pour vous, quelle est la quête finale de Zaharoff? C'est le pouvoir? C'est quoi sa quête? Parce que il semble en quête quand même, et il a toujours envie de faire mieux d'ailleurs. Enfin, c'est étonnant parce que parfois on est presque attendri, en tout cas par sa démarche d'avoir toujours envie d'être le meilleur, de faire mieux.
Oui, c'est une grande question. C'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore répondu à cela. Et c'est pour ça que au-delà de l'analyse politique, j'essaie d'apporter aussi une petite réflexion philosophique sur le but de ces personnes. Quand on court après le pouvoir et l'argent, il n'y a jamais de fin, aucun signal ne peut nous dire, voilà, ça y est, tu es parvenu, tu as réussi ta vie et tu as atteint tes buts. Alors, qu'est-ce qui satisfait ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Ces gens qui ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont, qui ne peuvent pas se contenter d'un coucher de soleil, d'un arbre qui pousse. Il faut toujours plus. Et je pense que ça ça mène forcément à la perte, en fait. Ça mène à une perte spirituelle, puisque on est toujours en quête. Et qu'est-ce qui se passe sur le lit de mort ? Est-ce que ces gens-là se disent, voilà, je suis heureux ? Moi, je pense pas. Et peut-être que c'est un espoir un peu vain, si vous voulez. J'espère que non. J'espère que des gens comme ça, à la fin de leur vie, se disent, je crois que je suis passé à côté de quelque chose. Donc, c'est une interrogation, et j'invite aussi le lecteur à se poser cette question. Quel est le but de la vie ? Est-ce que c'est d'amasser, ou est-ce que c'est de se poser, de contempler ce qui nous entoure ?
Et vous avez un certain fatalisme, je trouve, à l'observation d'un personnage tel que celui-ci, parce que là, on sent que vous choisissez ce vendeur d'armes, mais il fait écho à un certain nombre de figures contemporaines, je trouve, en tout cas. Et vous écrivez page 246, par exemple, on peut demander aux plus fortunés de ce monde de donner argent et biens, de participer à des causes, de créer des associations, mais on ne peut leur demander de mettre un terme à leur activité, serait-ce au nom du bien. Ils préféreront, et ça je trouve ça incroyable, ils préféreront toujours payer pour en compenser les dégâts plutôt que de se priver du confort, des habitudes et de la possibilité de croître. Je trouve qu'il est incroyable ce constat que vous faites, je trouve magnifique, c'est très bien écrit comme tout le livre. Et en fait, vous nous dites que il y a la philanthropie dans une main, dans l'autre main il y a le mal, ou en tout cas l'activité du mal, disons, mais finalement ça provoque aucune remise en cause, et ça, je trouve, ça fait écho à des figures contemporaines, non ?
Oui, alors vous pensez à qui, vous ?
Ah, je...
oui, voilà.
Je pense à deux ou trois, en tout cas, pas forcément aux marchands d'armes, d'ailleurs, mais qui ont cette maîtrise sur le monde, et sur la guerre et la paix, quoi. Hein. Il y a vraiment cet aspect.
Exactement. Et qui sont présentés, ces milliardaires, comme des altruistes, comme des gens qui veulent le bien de l'humanité. Alors, en effet, et c'est ça qui est incroyable, je trouve, c'est aussi, en effet, une dénonciation de la philanthropie. Alors, il y a une définition de la philanthropie par Paul Lafargue qui, je trouve, est très juste. C'est la philanthropie, c'est le vol en grand et la restitution en petit. Et c'est ce que fait Zaharoff, c'est-à-dire que quand vous pensez que Basil Zaharoff, en 1919, a offert à la ville de Versailles 1 million de francs, à l'époque, c'est une somme absolument colossale, eh bien, c'est vous imaginer combien il a reçu grâce au traité de Versailles, grâce à la signature du traité de Versailles qui lui a permis, de manière très contournée, détournée, d'avoir la mainmise sur Monaco. Voilà, imaginez que...
Qu'il a voulu racheter, hein, d'ailleurs, le rocher, j'ai découvert ça, qu'il a failli racheter Monaco.
Ben, en fait, il a été actionnaire principal de la plupart des casinos et établissements hôteliers de Monaco. Donc, autant dire en effet qu'il avait, il était actionnaire principal de Monaco, en gros. Et pour récompenser un état de fait, ce qui est expliqué dans le livre, c'est un peu technique, mais du coup, il offre 1 million de francs à la ville de Versailles. Et ça, c'est énorme. Et suite à ça, on considère Basil Zaharoff, qui par ailleurs fait des dons incroyables au Muséum d'Histoire Naturelle, à des associations d'aéronautique, enfin à peu près à toutes les causes et à toutes les associations qui existent, on peut se dire que oui, c'est un homme super. Et dans les années 30, beaucoup d'articles ont été très élogieux à son égard parce qu'on s'est concentré sur ses dons.
Mais et d'ailleurs, il est bardé de médailles, hein, je crois, à la fin de sa vie. Les plus hautes décorations d'un certain nombre de pays du monde.
Ah oui, mais Mais alors pareil, ce qui me fait dire qu'il faut se méfier des gens décorés, puisque les gens décorés par les États sont des gens qui servent l'État, ce qui est logique.
Oui, d'ailleurs, vous l'écrivez très bien dans votre livre.
Exactement, c'est-à-dire que il faut voir, si on a un prisme anarchiste quand on lit la destinée de ces gens, oui, ils travaillent pour l'État, ils travaillent pour maintenir l'État en place. C'est leur fonction, je pense. Donc forcément, ils sont décorés, ils ont les plus grandes décorations dans tous les États qu'ils ont servi. Et à ce point-là, comme Basil Zaharoff, c'est-à-dire cumuler les médailles d'un pays à un autre, même des pays adversaires, c'est vraiment en effet extraordinaire. Mais c'est pas un cas unique, je pense.
Mais alors, vous évoquez les adversaires, ce qui est aussi, je trouve, peut-être le sommet de la perversité dans votre livre, c'est que Zaharoff, alors pour schématiser, il faudra aller lire votre ouvrage, mais vend telle arme à un pays, et puis va voir le pays ennemi, et puis lui en vend deux, quoi, ou trois, en disant que c'est ainsi qu'il battra le pays d'en face. Enfin, là, on atteint des sommets de cynisme.
Exactement, mais encore une fois, c'est en lisant la documentation sur Basil Zaharoff, je me suis rendu compte que ce qu'on intitulait le système Zaharoff n'était pas du tout le propre de ce personnage, puisque c'est le principe du commerce d'armes. Et de manière générale, c'est le principe du commerce tout court. Mais quand vous voyez les contrats de Krupp, par exemple, à l'époque, c'est la même chose, en fait. Ils vendent vraiment à deux pays antagonistes, à deux nations antagonistes, ou pareil pour la Vickers en Grande-Bretagne, ou les armes américaines. Bon, quoique le marché américain est un peu spécifique, parce qu'ils étaient très protectionnistes avec leur marché. Mais sinon, la vente d'armes, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. On vend à un côté de la frontière et de l'autre. C'est plus efficace, et puis ça fait monter les prix, bien.
Jennifer Richard, vous disséquiez tellement l'art, si je puis dire, de la manipulation et de la négociation dans votre livre, que ça en fait, quand on termine, alors il n'y a pas que cette lecture, bien sûr c'est une lecture, que ça en fait presque un manuel du parfait attaché commercial, non ?
Ouais, c'est amusant que vous disiez ça, mais je suis tout à fait d'accord, c'est comment vendre ? En effet, c'est pas ma spécialité au départ, loin de là, mais en observant le personnage et puis toutes les entreprises pour lesquelles il a travaillé et puis les entreprises qu'il a fondées, oui, enfin ce sont des principes assez faciles, hein, des principes de base, vendre et acheter au bon moment, c'est tout. Et ensuite, dans les subtilités, ça me dépasse, c'est pas mon domaine, mais il faut juste constater qu'en effet, il faut être à l'affût, il faut vraiment être passionné par ça et puis c'est comme ça qu'on peut faire fortune, au détriment toujours des autres.
Vous allez loin dans la psychologie de votre personnage, Zaharoff. Comment on quitte ce personnage une fois que vous avez quitté le manuscrit ou achevé les dernières corrections? J'imagine que vous avez passé beaucoup de temps avec lui pour le comprendre, ou en tout cas pour le dire, l'écrire de cette manière. Comment on se débarrasse de ça, d'un tel personnage? Ça doit être encombrant.
Oui, il prend de la place, vous avez raison. Heureusement, moi j'avais d'autres projets en tête, j'ai pu enchaîner assez rapidement. Mais je l'ai quitté en le tuant, hein, comme vous avez vu. Je le quitte à sa mort en 1936, en le chargeant de beaucoup d'interrogations sur le sens de la vie, comme je disais tout à l'heure, de beaucoup de peur, enfin, même une terreur au moment de voir arriver son dernier souffle. Donc je me déleste aussi, moi, peut-être de quelques angoisses existentielles que je constitue en gros fardeau sur les épaules de Basile Zaharoff. Et puis j'estime que, bon, bah voilà, à la fin de sa vie, à la fin du roman, moi j'ai accompli ma mission, je lui fais dire ce que je voulais dire. Et juste, j'ajoute juste une chose concernant la philanthropie de Basile Zaharoff, parce que je disais qu'il avait financé beaucoup d'associations, beaucoup de grandes causes, mais il a également financé, et ça c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans les ouvrages consacrés à lui, il a également financé en 1932 le parti nazi. Et ça c'est intéressant parce que Basile Zaharoff, on lui a prêté aussi des origines juives. Bon, on ne sait pas d'où il vient, on s'en fiche un peu, mais ça a été évoqué. On s'est dit, on ne sait pas d'où il vient, il est possible que Zahar ce soit une origine juive, et que du coup... Voilà, sa ligne d'éthique, c'était ça. On ne finance pas un parti comme le parti nazi. Mais si, voilà, j'ai découvert que si. Et c'est ça qui m'a fait dire qu'il n'y a jamais d'éthique en politique, sauf dans le discours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'action et le discours est très différente, et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer avec ce livre, notamment.
Alors, il y a une chose étonnante, ou en tout cas sans doute très volontaire dans votre livre, c'est que vous ne portez pas de jugement. Il me semble, hein, sur la vie de Basile Zaharoff. C'est pourquoi ça ? C'est pour laisser le lecteur libre de se faire sa propre opinion jusqu'au bout ?
C'est pour qu'on ne se focalise pas sur lui. C'est parce que j'ai pas envie qu'en terminant ce livre, le lecteur se dise « Cet homme est une ordure et il représente le mal absolu ». De manière générale, les boucs émissaires ou les personnes qui prennent sur leur dos toutes les mauvaises opinions et tout l'opprobre, je trouve que c'est très dangereux parce que ça occulte tout ce qui se passait à l'époque de leur temps. Ça occulte aussi tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais vraiment qu'on ait en tête que moi, ce sont des exemples du commerce, de la philanthropie et de la communication que j'essaie de développer. Donc Basile Zaharoff a une vie incroyable et c'est un personnage de roman, mais c'est jouissif d'écrire sur quelqu'un comme ça. Il y a tellement peu de choses à inventer que c'est fantastique. Mais c'est un exemple. Et je voudrais vraiment que le lecteur ait ça en tête, que cet homme-là n'est qu'un exemple. Et c'est pas lui, personnellement, qu'il faut jeter aux oubliettes. Mmh, mmh.
Alors, presque à la fin du livre, vous écrivez cette phrase dans la plume de Basile Zaharov. « Je préfère régner en enfer plutôt que de servir au paradis. » Alors, ce sera ma dernière question, Jennifer Richard. Est-ce qu'il y a, elle est incroyable, cette phrase, mais elle est terrible. Il y a un peu d'espoir, quand même, pour un personnage comme celui-ci, ou pas du tout?
Ah là, la grande question. Là, vous m'en demandez beaucoup trop. Je sais pas du tout. Moi, je fais face à mes questions existentielles tous les jours, et je ne sais pas ce qui attend une personne comme Basile Zaharov. Je pense que la punition, elle est aussi sur Terre, qu'on soit croyant ou pas. De toute façon, il y a une punition qui va arriver à un moment. Je pense que Basile Zaharov ne dormait pas toujours bien. Il était hypochondriaque, comme beaucoup de personnalités très puissantes, comme Alfred Krupp était hypochondriaque, comme Léopold II en Belgique était hypochondriaque. Ce sont des personnes qui sont terrifiées, qui sont rongées, je pense, par des démons. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les puissants, mais je pense qu'une partie, quand même, une partie de l'être est déstabilisée par le déséquilibre qu'ils créent sur Terre, de leur vivant. Ensuite, au moment de leur mort, je pense qu'il y a quelque chose qui les saisit. Mais bon, là, je vous invite, et je vous invite tout le monde, à se poser cette question. Qu'est-ce qu'il advient d'une âme comme celle de Zaharov?
Le diable parle toutes les langues, et c'est extrêmement bien écrit par vous, Jennifer Richard, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.